Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Chaque mois, quatre médias, Le Parisien aujourd'hui en France, Combini, Uzbek Erika et France Culture, se couplent pour investir un grand sujet environnemental. Un rendez-vous mensuel auquel nous sommes ravis de participer, un partenariat qui nous permet de vous offrir surtout un tour d'horizon complet, des enquêtes et des sujets approfondis sur un thème environnemental grâce à notre coalition sous le hashtag Sauver le présent. Ce mois-ci, c'est le monde du BTP qui fait l'objet de notre grand dossier de la gestion des déchets à la construction 3D des bâtiments de demain, un dossier dont vous pouvez disposer sur le site de l'émission franceculture.fr à la page de Cause à effet et également sur les sites de nos partenaires, bien sûr. Dans ce cadre, nous vous proposons aujourd'hui de plonger dans deux univers pluridisciplinaires qui chacun, à leur manière, œuvrent pour ce monde du bâtiment et du travail de demain, du BTP polluant au BTP éco-responsable. Avec nous, Paul-André Rosenthal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po, chercheur associé à l'INED et directeur du projet de recherche Silicosis qui articule les disciplines histoire, sciences sociales et spécialité médicale dans le but de renseigner et de faire avancer la prise en charge médicale et sociétale. On va en parler avec vous, bien sûr, à vos côtés, Catherine Cavalin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au CNRS dans le laboratoire de l'IRISO à l'Université Paris-Dauphine et actrice aussi de Silicosis. Et également autour de la table, deux jeunes femmes associées de la SCOP Les Deux Rives, Hélène Ludman et Céline Ross. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes toutes les deux, en tout cas vous qualifiez, d'animatrices, de défricheuses et d'ensemblières sur les sujets de l'écologie dans le cadre de vie bâti et aménagé. Une expertise pluridisciplinaire sur le terrain des bâtiments de demain et donc une expertise que nous allons découvrir avec vous. Et en seconde partie d'émission dans l'œil du monde planète, le journaliste Rémi Barou de Retour des Pouilles nous parlera du danger de la bactérie tueuse d'olivier, mais pas seulement. Enfin, l'escale verte nous emmènera dans le vignoble des cépages français interdits avec le réalisateur du documentaire Vitis Prohibita. Il s'agit de Stéphane Ballet, un film bientôt au cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans notre magazine de l'environnement préparé par Anaï Morales avec les complices de l'équipe Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. L'émission toujours réalisée par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Jérémy Kaufmann.
Jacqueline Josepha Fébrilet travaillait à deux rues du World Trade Center. Elle est aujourd'hui atteinte d'un cancer.
J'étais là-bas et j'ai été très exposée. Mon cancer est sans doute lié au 11 septembre. Le cancer s'est aussi propagé dans mes poumons alors que je n'ai jamais fumé et il s'est développé très vite.
En 2011, 10 ans après les attentats, une enquête scientifique montrait qu'un très grand nombre de secouristes et de riverains présents sur les lieux avaient développé des cancers liés aux inhalations de poussière et de gaz toxiques. Un programme de dépistage a été mis en place par l'administration américaine. Il révèle que plus de 14 000 personnes sont atteintes de la maladie.
Ma femme me demande si ce sont les terroristes qui sont responsables de mon cancer. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais je sais qu'il aurait pu y avoir plus d'efforts pour limiter l'exposition des adultes sains.
Même pour les avocats, il est encore difficile de pointer une responsabilité.
Personne ne pouvait prévoir ce qui se passerait lorsque vous prenez des milliards de tonnes de matériaux de construction qui mijotent ensemble pendant 99 jours et que vous les diffusez dans l'air du centre-ville.
Faute de responsabilité, l'administration américaine a décidé d'indemniser les victimes jusqu'en 2090. D'année en année, le nombre de cancers liés aux attentats du 11 septembre est en perpétuelle augmentation.
C'est un reportage qui a été diffusé sur France 3 le 9 septembre dernier. Souvenir toujours vif de cet attentat du World Trade Center aux États-Unis. Et Paul-André Rosenthal, c'est cet événement, je crois, qui a été à l'origine, en quelque sorte, de vos travaux de recherche. Expliquez-nous.
Oui, les événements du 11 septembre ont eu un effet qu'on qualifie parfois, d'ailleurs indûment, d'expérience naturelle. C'est un choc absolument considérable qui produit des effets inattendus et marquants. Et effectivement, ces dégagements de différents matériaux toxiques se sont accompagnés d'une observation épidémiologique selon laquelle une partie des personnes, entre autres les sauveteurs qui avaient été exposés aux dégagements consécutifs à l'effondrement des deux tours, déclenchaient toute une série de maladies, parfois avec un long décalage temporel. Alors certaines d'entre elles, tragiquement répertoriées, comme les maladies liées à l'amiante par exemple, mais d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Et effectivement, les médecins épidémiologistes américains s'en sont rendus compte assez tôt. Et malheureusement, au cours du temps, ces effets n'ont été que confirmés, comme on le voit dans cet entretien, vous voyez, 18 ans après les faits. Et ça a déclenché toute une série d'interrogations dans la littérature médicale, certaines totalement inédites, d'autres qui venaient donner une actualité et une force plus grande à des questions qui étaient plus anciennes, mais qui n'avaient jamais véritablement pris. Et effectivement, elles ont été un des déclencheurs des recherches que nous avons lancées une dizaine d'années plus tard.
Donc dites-nous, en quoi consiste votre centre de recherche et qu'est-ce que vous expertisez finalement en sachant qu'il est pluridisciplinaire ce centre, Catherine Cavalin?
Alors oui, je suis dans un laboratoire en effet pluridisciplinaire. Ce qu'il faut dire, c'est que sur ces sujets-là, on ne peut pas travailler une discipline à la fois. Par exemple, l'événement Lubrizol nous le montre. Le savoir profane est très important aussi, enfin dit profane par rapport au savoir scientifique, et les uns et les autres se nourrissent. Et l'observation des personnes sur leur propre maladie ou sur l'évolution de leur corps, et notamment du fait de ce que vient de dire Paul-André Rosenthal sur les temps de latence, sur la manière dont on observe l'évolution de son propre corps, dont on s'interroge, dont on peut s'interroger soi-même sur les effets possibles de la cause, pour reprendre le titre de l'émission. Là, en réalité, c'est plusieurs causes et plusieurs effets, font qu'on a besoin et des victimes et de plusieurs savoirs, donc plusieurs savoirs qui sont toxicologiques, qui sont épidémiologiques et en sciences sociales, pour comprendre comment aussi, par exemple, des phénomènes de corruption peuvent être à l'origine de malfaçons dans des bâtiments, des choses comme ça. Voilà. Donc il y a des phénomènes sociaux qui se mêlent aux événements physiques et naturels, dits naturels, pour comprendre les causes et les effets dans ce genre d'événements tel que celui dont on vient de parler.
Et donc, Paul-André Rosenthal, l'histoire aussi, puisque vous êtes historien, cette discipline entre de plein droit dans ce groupe de recherche que vous avez monté, Silicosis, parce que vous faites en sorte de renseigner aussi, de remonter dans le temps pour essayer de trouver la trace de ces pollutions ou de ces environnements polluants qui peuvent expliquer aujourd'hui le développement de telle ou telle maladie chez des patients.
Alors, l'histoire, pour ce qui nous concerne, en tout cas avec l'enquête qu'on a menée au départ à Sciences Po, puis progressivement avec toute une série d'institutions, notamment des équipes hospitalières, l'enquête, en fait, a commencé par un travail historique qui ne s'attendait pas du tout à rencontrer des questions médicales et des équipes médicales qui mettaient en évidence l'histoire longue de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance ou difficile des maladies pulmonaires liées au métier. Et puis progressivement, à mesure qu'on publiait, c'était un mouvement international, un certain nombre de pneumologues nous ont contactés, dans notre cas un pneumologue lyonnais, Michel Vincent. Et effectivement, avec cette idée selon laquelle, d'une part, on se rendait compte que la reconnaissance de certaines maladies phares, notamment la silicose, qu'on connaît bien, qu'on associe d'habitude uniquement aux mineurs de fond, alors qu'elle est beaucoup plus universelle, eh bien, la reconnaissance de cette maladie, elle aussi terrible, un peu comme les maladies de l'amiante, est allée de pair avec le fait de laisser au second plan de la recherche médicale des maladies plus complexes et qui sont restées moins visibles pendant très longtemps. L'histoire a également eu une autre importance dans ce travail de collaboration interdisciplinaire, comme le disait tout à l'heure Catherine Cavalin, c'est de révéler qu'au cours du temps, dans les années 1930, 40, 50, de temps en temps, des médecins, parfois de grands médecins, essayaient d'ouvrir cette boîte noire des maladies, se posaient des questions qui sont très proches de celles qu'on se pose aujourd'hui, mais ça ne prenait pas. Il n'y avait pas de pertinence sociale, économique, médical a véritablement essayé de comprendre ce qui se passait. Et là aussi, l'histoire a joué un rôle. Elle montre qu'au fond, les phénomènes d'oubli sont aussi importants que les phénomènes de connaissance. De ce point de vue-là, elle interroge un mécanisme qui, a priori, nous semble évident, celui de la cumulativité du savoir. La science serait un savoir qui procéderait par accumulation, par ouverture, découverte de vérités successives. En réalité, ce dont on se rend compte, c'est qu'elle fonctionne également par mécanisme d'oubli à répétition.
Alors concrètement, quand on prend ce domaine du BTP, dans vos travaux, quelles sont les poussières peut-être toxiques auxquelles vous pensez d'emblée qui sont dans cet environnement-là et qui aujourd'hui font l'objet soit de vos études, soit en tout cas sont à questionner quant à la santé d'aujourd'hui et de demain? Catherine Cavalin.
Alors sur le BTP, c'est à la fois quelles sont les poussières, mais aussi quelle est la définition de ce qu'on appelle un métier du bâtiment. Alors, quelle poussière et dans quel contexte? Il y a plusieurs problèmes. Il y en a un qui est connu de la sociologie du travail depuis les années 60, qui est particulièrement vrai pour le BTP, c'est que définir ce que c'est qu'un poste de travail, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on est sur un chantier, qu'on est maçon, on est aussi, par exemple, exposé à des fumées de soudure. Et les fumées de soudure, du point de vue physico-chimique, créent des transformations des particules à cause de la chaleur qui créent une dangerosité particulière. Donc quand vous passez beaucoup de temps à côté d'un soudeur et que vous êtes maçon, finalement, vous allez en visite de médecine du travail, vous dites « je suis maçon », ça n'est peut-être pas ça qui est pertinent pour savoir ce qu'il faudrait chercher dans les problèmes de santé que vous pouvez avoir. Donc la définition du poste de travail pose un problème. Pour le bâtiment, ce qui pose un problème aussi, c'est que la liste des métiers est presque infinie. Donc les postes sont flous, on est frontières floues les uns avec les autres, c'est ce que je viens de dire, mais aussi électricien, mais des sous-catégories d'électriciens, plombier, mais quoi dans la plomberie exactement, qui s'occupe des tuyaux, donc il y a des spécialités de tuyauteurs, mais que font-ils? Et voilà, donc il y a des spécialités extrêmement différentes dont il est évidemment très difficile pour un médecin du travail de savoir, quand il reçoit un patient en consultation, tout ce que ça peut recouvrir. Et puis, entre ces différents métiers, il y a aussi des points communs, comme par exemple le fait de percer des murs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très commun à beaucoup de métiers et qui expose par exemple dans des bâtiments à l'amiante, parce que dans les murs, quand on perce, on peut aussi voilà dégager des poussières. Alors, quelle poussière? Je réponds quand même à la question.
Oui, et puis il y a l'effet cocktail, bien évidemment, voilà, hein, dont il faut
cocktail,
parler.
Alors, les effets cocktail, oui, on peut les évoquer. D'abord, en définissant les poussières, en commun, la silice, qui est le sable, hein, donc c'est le dioxyde de silicium, qui est le matériau le plus transversal, la silice cristalline, à tous les matériaux minéraux. Donc tous ces métiers sont très exposés à ces matériaux-là. Et le rapport de l'ANSES, qui est sorti donc au printemps 2019 sur la silice cristalline, le rapport d'expertise, montre bien ça. La présence de la silice cristalline dans le bâtiment en particulier et à des niveaux très élevés. Donc ça, c'est pour tous les métiers. Après, il y a toutes les autres particules minérales. Et donc après, aussi des cocktails entre ces différentes particules. Donc par exemple, l'amiante et silice, qui sont présentes dans beaucoup de lieux ensemble. Et aussi, tout un tas d'autres substances, comme les solvants, par exemple. Et donc des études, depuis le milieu des années 2010 à peu près, des études épidémiologiques sur de grandes cohortes, montrent que dans certaines maladies, justement hors silicose, en complément de ce que vient de dire Paul André sur les autres maladies que la silicose, par exemple sur la sclérodermie systémique, on montre que dans le bâtiment, il y a des expositions probablement à des solvants et des particules inorganiques ensemble, dont on ne connaît pas du tout les effets combinés et la toxicité possible.
Je me tourne vers justement Hélène Ludman et Céline Ross. Toutes les deux, donc, vous êtes fondatrice hein, de Scope Les Deux Rives et vous travaillez dans un projet aussi interdisciplinaire à faire avancer les constructions d'aujourd'hui et de demain avec le respect de l'environnement et de la santé publique. Alors santé mentale, mais santé physique aussi, on imagine. Est-ce que concrètement, ces questions-là, avec les nouvelles formes d'habitat et se vivre ensemble, est-ce que ces questions de maladie du bâtiment, vous les avez rencontrées pour l'heure ou pas vraiment? Vous êtes sur d'autres réflexions? Céline Ross.
Alors, on a une activité d'acculturation et de formation des professionnels du bâtiment sur ces enjeux environnementaux, sociétaux et sanitaires. Et justement, souvent, on commence à approcher le sujet du bâtiment performant, du bâtiment durable, par l'approche santé, en ayant une perspective, on reprend un peu les visées de nos autres interlocuteurs, une perspective historique et sanitaire. Donc, on débute cette acculturation par... vaincre la tuberculose dans les bâtiments, donc l'impact de la conception du bâti sur la santé. Donc faire venir air et lumière dans les bâtiments, en disant que les professionnels du bâtiment ont une responsabilité, connue ou pas, sur la santé des occupants et du bien-être des occupants.
Et donc concrètement, alors dites-nous avec quel corps de métier vous travaillez, Hélène Ludman.
Alors on travaille avec tous les acteurs du cadre bâti, c'est aussi bien donc les maîtres d'ouvrage, les personnes qui font la commande, les maîtres d'œuvre qui sont les concepteurs et les entreprises, les artisans du bâtiment, donc on va retrouver sur les chantiers. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de faire se rencontrer ces publics qui sont pas forcément toujours en dialogue et en discussion, et d'insuffler une culture commune par rapport à ces enjeux de bâtiment durable et d'aménagement du territoire.
Et donc, travailler aussi avec eux pour ces bâtis, en tout cas de demain, c'est aussi travailler avec des nouveaux matériaux. Eux-mêmes, ces matériaux-là, est-ce qu'ils ont été ou validés ou est-ce qu'ils sont questionnés sur une possible nocivité ou pas, ou un bien-être finalement par rapport à d'autres?
Au niveau des matériaux, nous, l'entrée qu'on prend, évidemment, c'est les oco-matériaux, donc tout ce qui est matériaux biosourcés, matériaux géosourcés. C'est des matériaux qui permettent d'avoir une entrée sur la partie, évidemment, qu'on connaît peut-être plus des propriétés thermiques, mais aussi des impacts sur la santé au niveau des personnes qui sont justement sur les chantiers, les artisans, et au niveau des usagers une fois que les matériaux sont mis en œuvre. Après, c'est des sujets qui recoupent plein d'autres thématiques, comme quand on fait appel à des matériaux biosourcés, géosourcés, on va faire appel à plutôt des circuits courts, à une économie locale, etc. Donc on met aussi en balance cette nouvelle économie qui se crée sur les territoires avec ces matériaux qui sont plus sains pour les usagers et les poseurs.
Quand vous dites matériaux biosourcés, c'est quoi ?
Alors les matériaux biosourcés, c'est ce qu'on peut appeler des éco-matériaux. Donc c'est vrai qu'on a plutôt une démarche low-tech et frugale. Donc ce qu'on va appeler les matériaux, nouveaux matériaux, en fait c'est des matériaux plutôt traditionnels qu'on retrouvait dans un bâti traditionnel. La construction conventionnelle actuelle s'en est un peu détachée. Donc ça va être des matériaux base de pierre, de chanvre, de terre crue,
de
bois, de paille, de laine de mouton, de cellulose ou de carton recyclé. Donc revenir à des pratiques peut-être un peu plus pérennes et plus respectueuses de ceux qui mettent en œuvre et de ceux qui vont habiter.
Paul-André Rosenthal, vous voulez peut-être réagir ?
Moi je suis extrêmement intéressé parce que vous parliez tout à l'heure de l'histoire, Aurélie Luneau, oui. Ce que l'histoire montre, c'est que d'une manière générale, plus on a affaire à la main-d'œuvre en contact avec la matière première, plus on a affaire au danger. Donc là, vous travaillez véritablement sur ce front-là qui, historiquement, est toujours le plus vulnérable. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est que, malheureusement, ce que montre aussi l'histoire, c'est que il y a eu, dans certaines industries traditionnelles, de grands dangers, notamment la taille de la pierre, qui est un des métiers historiquement les plus anciennement dangereux.
En sachant qu'aujourd'hui, dites-nous, Céline Ross, il devrait y avoir des normes aussi de sécurité, c'est-à-dire ce travail devrait être fait, on imagine, avec des masques, avec une protection spécifique.
Après, oui, bien sûr, il y a un principe de précaution, il y a des préconisations par rapport à la mise en œuvre. Mais l'histoire actuelle nous montre aussi que les bâtiments tels qu'ils ont été conçus ces dernières décennies sont aussi des bombes à retardement, notamment au regard des allées un peu extrêmes qui nous tombent un peu dessus entre le terrorisme, entre le dérèglement climatique. Donc le comportement du bâti n'est plus forcément le même et n'est plus éprouvé de la même façon.
Et finalement, l'objectif, c'est pas tant peut-être, ou la santé précisément, c'est plus peut-être réduire la consommation d'énergie, être dans un cadre aussi respectueux de l'environnement et face au réchauffement climatique, on imagine, hein, Hélène Ullmann.
C'est justement d'être à la croisée de tous ces sujets. La santé environnementale est une entrée, la préservation des ressources naturelles une autre, le fait de développer des économies locales encore une autre. Donc voilà, on va
être... Les circuits courts, il y a beaucoup de problématiques qui se croisent, et la santé est un point, mais pas forcément aujourd'hui celui qui est prioritaire.
Ça reste un point central. Nous, on pense, et c'est comme ça qu'on travaille, que l'être humain doit être au centre de tout ce qu'on déroule sur ces sujets, et qu'effectivement, le bien-être, l'être bien dans ses lieux de vie, dans ses lieux de travail, dans les déplacements, dans ses villes aussi, au niveau de tout ce qui est espace extérieur, ça reste un point central par rapport à toutes ces démarches-là.
Catherine Cavallin, compliqué, c'est vrai, aujourd'hui, parce que ces questions de bâtiments, c'est essentiel. On a compris qu'il y va aussi de la santé de chacun, non seulement des ouvriers qui sont en première ligne, mais aussi, potentiellement, on disait, les enfants, la famille, avec ces poussières qu'on ramène dans l'environnement, etc., ou ne serait-ce que la pollution atmosphérique, dont on parle aussi fréquemment. Je rappelle juste quelques chiffres. Le 70% des déchets sont dus au BTP et apparemment, 60% des gaz à effet de serre proviendraient du BTP. Donc, ce n'est pas innocent, mais les enjeux se croisent.
Alors, les enjeux se croisent et sur certaines affaires, entre guillemets, sur certains cas précis, on le voit d'une façon vraiment criante. Je vais prendre un exemple qui concerne justement la silice, ce matériau qui est omniprésent dans les questions de bâtiment, d'exposition dans le bâtiment. Une des dernières actualités, on parlait du World Trade Center tout à l'heure, une des dernières actualités de la silice, c'est ce qu'on appelle les pierres artificielles, c'est-à-dire de la poudre de silice agglomérée avec des résines. avec lesquels on fabrique des plans de travail pour les cuisines, mais aussi tout un tas d'aménagements divers pour la maison.
Et alors, je vous arrête parce que je vous propose, avant d'aller plus loin, d'écouter un reportage, justement. C'était suite au rapport de l'ANSES, paru en mai 2019. Voici ce reportage qui a été diffusé sur France 3 le 22 mai.
C'est un minéral omniprésent sur Terre, la silice cristalline, en particulier le quartz. On l'extrait du sol, on la découpe, on la transforme. Elle est essentielle dans le bâtiment. En France, 365 000 ouvriers sont exposés à la silice cristalline, dont 23 à 30 000 au-dessus de la valeur limite d'exposition, dans le BTP, le funéraire, la voirie, la peinture ou la verrerie. Il y a 6 mois, dans cette marbrerie de la région parisienne, nous avions rencontré cet ouvrier qui avait travaillé le quartz de synthèse.
Ça, c'était d'une ancienne cuisine. Donc, c'est ce produit qui est là, qui la érose, qui était rouge, qui était noir, blanc, de toutes les couleurs. Ça piquait les yeux, la gorge. Quand on est arrivé à la maison, on avait encore cette gêne et souvent des nausées. Ou on n'était pas bien.
Il y avait des gens qui allaient aux urgences. Quand ils avaient travaillé 2-3 plans de cuisine d'affilée, ils tombaient dans les vapes et tout ça. C'était, il y a eu des problèmes sévères, à mon avis. En France, ça fait pas beaucoup de bruit, mais parce que tout le monde se tait.
Les risques, notamment de silicose et de cancer bronchopulmonaire, sont importants. L'ANSES recommande de réduire les seuils officiels d'exposition. En 2018, l'Europe a classé cancérogène la silice cristalline.
Catherine Cavalin, donc ce rapport de l'ANSES paru en mai dernier, réémergence des maladies de la silice cristalline en Andalousie. Ce rapport d'ailleurs, il a changé quoi? Et je crois que vos travaux, tous les deux, Catherine Cavalin et Paul-André Rosenthal, vos travaux ne sont pas innocents non plus dans la parution de ce rapport, ça a pu aider.
Un rapport de l'ANSES, c'est quoi en général? C'est un avis de l'agence, c'est un groupe d'experts qui se prononce et ensuite l'agence, sans les experts, émet un avis. Donc ça n'a pas forcément d'effet immédiat, mais ça peut déboucher sur la réduction de valeurs limites d'exposition professionnelle, sur des changements dans la réglementation. Alors on espère que oui. En l'occurrence, sur la silice, ce qui est compliqué, ce qui a été évoqué dans ce reportage, c'est que depuis longtemps, on dit que les seuils d'exposition sont trop élevés, mais que depuis presque 20 ans, la reconnaissance par l'Europe de la silice comme silice cristalline comme matériau cancérogène était complètement bloquée du fait de l'action qui a été montrée par certains sociologues, par exemple Tony Mouzou du centre de recherche de l'ETUI, comme le résultat d'un lobbying délibéré des industriels. Donc ce blocage qui intervenait au niveau de l'Europe sur la non-reconnaissance de la carcinogénicité de la silice, aujourd'hui, je dirais, est assez largement levé, comme on l'a vu, on l'a entendu dans le reportage, parce que l'Europe a reconnu, non pas la silice, mais les procédés utilisant de la silice comme cancérogène, et aussi parce que l'ANSES, donc dans ce rapport, à la suite d'autres rapports de synthèse qui ont été faits aux États-Unis ou en Suède, par exemple, ou dans d'autres pays, se prononce en disant, oui, c'était compliqué, mais maintenant, on peut trancher, oui, la silice est carcinogène. Donc, tout ce qui est doute et remise en cause des connaissances dont parlait Paul-André Rosenthal tout à l'heure, sur certains sujets, sont tranchés d'une manière un peu plus catégorique, y compris par les agences sanitaires. Ça ne débouchera peut-être pas sur une nouvelle loi ou des nouvelles réglementations, mais ce sont des réponses un peu plus fermes.
Paul-André Rosenthal, les marchands de doute. Ces travaux que vous menez depuis des années, vous devez aussi faire face à ces actions-là ou de lobby. Et vous nous montrez aussi très clairement que ces maladies dites professionnelles, elles ont été très longtemps, ou elles sont même encore, sous-diagnostiquées et sous-déclarées, parce qu'il y a des gros enjeux aussi économiques à la clé, au-delà des indemnisations.
Oui, alors de ce point de vue-là, le rapport de l'ANSES est très important pour la France. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'interdisciplinarité. Je tiens à dire qu'effectivement, pour nous, c'est une des grandes satisfactions de voir qu'un travail qui est venu des sciences sociales, de l'histoire et des sciences sociales, a produit un impact dans le fait de développer ce rapport. On a eu aussi un retour de l'Office sanitaire de santé au travail américain qui a révisé les seuils d'exposition à la silice. Donc,
Les sciences médicales aussi viennent ajouter, c'est-à-dire que face quand même à des avis de médecins, ça apporte un poids aussi à vos travaux.
Voilà, et là on voit qu'effectivement cette collaboration interdisciplinaire a du poids, le fait de mélanger des institutions dont chacune a une légitimité dans son domaine d'action à une action. Et ce qui est difficile, vous parliez des marchands de doute, c'est que c'est pas du tout un plaidoyer abstrait ou idéologique que je tiens ici, mais ce que montre l'histoire, c'est que malheureusement, la reconnaissance, je dirais, scientifique des choses n'est jamais acquise. Vous voyez, l'une des personnes qu'on entendait dans votre reportage disait « ça n'a pas fait beaucoup de bruit, tout le monde se tait ». Et on constate en permanence, encore une fois, un oubli. Il existe aujourd'hui, on a des signes récents au sein de l'industrie minière américaine, par exemple, des mineurs de fonds qui ne connaissent pas l'existence de la silicose, une maladie très très connue dans les années 30, 40, etc. Et de ce point de vue-là, puisqu'on a beaucoup parlé avec raison du BTP jusqu'à maintenant, il faut aussi avoir en tête la question des travaux publics, ne pas l'oublier, qui est aussi très importante. Et là, on constate qu'il y a vraiment une asymétrie. Travaux publics, ça a provoqué, au fond, le 11 septembre, c'est un tout petit peu ça, on peut l'assimiler à cela, des grandes catastrophes, des espèces d'épidémies, entre guillemets, de maladies mal connues. Et ça peut produire, si la science relais, médicale, extra-médicale relais, ça peut produire un effet de connaissance. Alors que la grande difficulté du type de phénomène qu'étudie aujourd'hui Catherine Cavalin, la pierre de cuisine dont vous parliez, c'est que là, on a affaire à une grande dispersion des cas. Et donc la capitalisation des expériences de maladies, qui sont très dures, est beaucoup plus difficile à obtenir. Donc il y a les marchands de doute, mais il y a aussi des mécanismes internes qui, en plus, rendent le terrain particulièrement défavorable.
D'où l'importance des questionnaires, je crois, Catherine Cavalin.
Oui, alors il y a plusieurs manières pour essayer de faire sortir la réalité, enfin de la rendre visible. Effectivement, il y a des outils à mettre au point, c'est-à-dire que les données telles qu'elles existent ne parlent pas forcément. Donc des questionnaires, oui, mais alors des questionnaires auprès de qui, en croisant les informations. Et par exemple, dans les travaux qu'on a faits, dans le projet Silicosis, l'idée c'était à la fois de questionner des personnes sur les expositions pour essayer de les faire reconstituer, leur faire reconstituer les expositions sur leur vie entière à certains matériaux, particules inorganiques. Et y compris lorsqu'elles étaient diagnostiquées, dans quel état de santé précis elles se trouvaient, et de comparer ces données. Donc ça, on n'a pas souvent l'occasion de le faire, mais de comparer ces données à d'autres données en population générale, qui parlent moins facilement, qui ne sont pas forcément destinées à ça, mais avec des comparaisons, et à force de croiser des sources, on arrive à faire sortir des informations.
Idéalement, il faudrait que les questionnaires aboutissent dans les cabinets des médecins.
Et qu'ils en partent, c'est-à-dire aussi qu'on le fasse utiliser.
Oui, qu'ils reviennent, bien évidemment.
Alors c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire que des formats sous des formats pratiques, on a mis à disposition des médecins qui travaillent avec nous et en mettant au point avec eux ces questionnaires, des questionnaires qui sont des questionnaires de dépistage qui permettent de faire naître de l'information au niveau clinique.
C'est une grosse.
Oui, juste au niveau des médecins, par rapport à la qualité de l'air intérieur, il y a aussi une problématique, c'est que les médecins ne vont plus chez les gens, donc ne se rendent plus compte de comment les gens habitent leur habitat, quels sont les comportements, quels sont les matériaux qu'on retrouve chez eux. Bon, c'est sûr que ces questionnaires sont essentiels et se substituent aussi à un contact direct qui est de moins en moins en vigueur.
C'est très exact. Juste, c'est quelque chose auquel on a donné une place et c'est votre observation est très juste. On se rend compte que les médecins hospitaliers avec lesquels on travaille en ont une idée lorsqu'ils interrogent, mais effectivement, c'est un changement considérable. Il faut bien voir qu'une partie des entre guillemets, des toxiques sur lesquels nous travaillons sont dégagés par des poussières. Et rien n'est plus invisible qu'une poussière. Quand on commence les entretiens, très souvent, les gens nous disent « Ah, mais moi, je n'ai jamais été exposé », y compris des personnes qui travaillent dans des secteurs très, très exposés. Mais effectivement, c'est très important d'avoir l'idée d'une reconnaissance de l'existence potentielle d'un danger, d'une part de la part des personnes exposées dans leur travail ou hors du travail, et d'autre part du corps médical. Et véritablement, c'est deux pôles qui doivent se rencontrer, qui doivent prendre conscience de ce danger, qui est un danger potentiel. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas du tout à alarmer, il ne s'agit pas non plus de créer une phobie générale, mais c'est plutôt sensibiliser à une expérience, être attentif à son expérience de vie, mémoriser également des expériences passées. C'est un réflexe épidémiologique au fond nouveau, c'est une attitude de santé publique nouvelle qu'on essaye donc de dégager à partir de nos travaux. Il y a vraiment une question générale qui se dégage aujourd'hui à partir de ça.
Et soyons clairs, Paul-André Rosenthal, vos travaux ont permis de sauver des gens, notamment à Lyon.
Oui, on a constaté, on a fait l'étude, c'est évident que c'est un type de risque qui est peu enseigné dans la formation des étudiants et étudiantes en médecine. Et puis il y a aussi l'idée qu'une partie des maladies sur lesquelles on travaille, eh bien on les associe à tel ou tel secteur d'activité. Je parlais des mines de charbon tout à l'heure. Les médecins ne s'attendent pas à les rencontrer et du coup ne les détectent pas systématiquement et ne rattachent pas systématiquement tel symptôme à telle maladie, dans le domaine en tout cas qui est le nôtre.
Alors, juste petite précision, pour la silice cristalline, pour ces plans de travail ou dans les cuisines ou cet aménagement intérieur, les risques, il faut bien préciser pour les auditeurs, sont pour qui? Pour ceux qui travaillent, qui découpent ou pour les personnes qui habitent dans les maisons?
Alors la question est ouverte. La seule réponse sûre qu'on a pour l'instant, c'est que les risques massifs sont pour ceux qui fabriquent le matériau. Vous avez parlé de l'Espagne tout à l'heure, mais aujourd'hui c'est aussi l'Italie, l'Australie, les États-Unis et beaucoup d'autres pays qui sont concernés par ce qu'on a appelé une épidémie de silicose, puisque les fabricants ouvriers donc de ces matériaux et ceux qui découpent dans des petits ateliers sans masque, etc., les planches, les grandes planches de matériaux minéraux qui sont fabriqués pour ensuite les poser dans les cuisines, sont les plus exposés et ils sont malades. Donc les travailleurs sont exposés. Dans le reportage qu'on a entendu tout à l'heure sur la marbroderie des Yvelines, il existe aujourd'hui donc un cas judiciaire qui oppose Philippe Ledran, qui dirige cette entreprise, au fabricant espagnol Cosentino, qui fabrique le matériau Silestone. Donc Philippe Ledran accuse en fait ce fabricant avec lequel il a fabriqué lui des plans de cuisine pour ses clients, de mettre dans ces matériaux cette part de résine et de pigments qui permettent de faire des couleurs, des textures, etc. Et dont il pense, lui, après analyse chimique du matériau, dont il pense que ce serait ça qui serait à l'origine de la maladie de ses salariés à lui. Et donc, il en a conclu, après cette expertise, que probablement, étant donné la nature de ces matériaux, dont beaucoup sont carcinogènes, il existe aussi, donc pas seulement le risque de silicose pour les salariés, mais aussi un autre risque, et aussi pour les consommateurs, sur le plan de cuisine, quand on met sa tomate acide, etc., sur le plan de cuisine, la possibilité d'une migration du produit dans ce qu'on va manger. Alors sur cette question, on n'a pas encore tranché, mais en tout cas c'est une question qu'il a ouverte. Et la troisième question que Philippe Ledran a eu le mérite d'ouvrir aussi, qui n'est pas encore tranchée, mais c'est qui renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la question des déchets. C'est-à-dire que les chutes de tous ces matériaux, qu'est-ce qu'on en fait, qui sont bourrés de matériaux carcinogènes. Et voilà, donc on a le bout de la chaîne qui est aussi une contamination, un problème de contamination générale pour les travailleurs, les consommateurs, et l'environnement dans son ensemble.
Eh bien, la question des déchets, nous allons l'aborder juste après le choix musical. C'est le vôtre, Céline Ross, qui a été choisie entre les lignes, une goutte. C'est donc Kenny Arcana. Il y a une raison particulière pour ça ?
Parce que c'est une jeune femme très engagée sur les questions politiques, environnementales. Et ces textes nous parlent, je pense, sont très très contemporains des enjeux qui nous animent.
Je ne suis qu'une goutte dans l'océan, une goutte de plus parmi vous, une goutte de pluie ou une larme de plus sur les joues de notre planète Terre. Mère, pardonne-nous, l'homme a créé ce tourbillon qui nous a tous rendus fous. Folie générale, même les climats ne tiennent plus le coup, nos vies ternissent par notre faute, on en a même perdu le goût, j'ai peur du coup. Pourtant j'ai bien vu la lueur du gouffre, du moins je l'ai aperçu en éclairant un peu mon cœur du fou. Oui, que le soleil, la lune, les arbres, les mers nous pardonnent, toutes les espèces vivantes que la mienne a exterminées. Je demande pardon parce que tout le mal qu'on a créé, faudra de la force pour réparer. Et que j'ai du mal à voir que ce monde est prêt, l'immonde est près de nous. Mais j'ai la foi que ça change, ça paraît fou. Une goutte de plus, peut-être une goutte qui dérange, une goutte noyée dans un océan qui se déchaîne et tant de nous broyer. Voyez, on n'a pourtant pas de haine dans les gènes, tant pis, on part de là. Mais on peut aller loin, l'enfant, chacun le sait. Même si on fait comme si tout allait bien, que la rage demeure, fait naître tant de violence dans nos cœurs. Trop de conflits en pagaille, aux ondes qui s'installent dans nos peurs. Venez pas faire un tour dans nos esprits en bordel. Mélancolie, une goutte de plus. Et le poison devient mortel, simple reflet d'un monde particulièrement en bordel. Juste une goutte de plus pour que déborde le vase ou le cocktail. Parce qu'il suffit d'une goutte de plus parfois pour que tout change. Rééquilibrer, faire basculer, pas besoin de beaucoup de chance. Juste du goutte à goutte avant que le sablier ne se vide limpidement.
C'était Entre les lignes, une goutte de Kenny Arcana. Et nous poursuivons notre émission sur le BTP, du BTP polluant au BTP éco-responsable. Une mutation nécessaire est en cours. C'est le sujet de notre émission dans le cadre du partenariat Sauver le présent, proposé par France Culture, Le Parisien aujourd'hui en France, Combini et Uzbek Erika, sur ce thème riche du BTP, des enquêtes et des sujets approfondis, de la gestion des déchets à la construction 3D des bâtiments de demain, et un dossier bien sûr que vous pouvez regarder, scruter, investir sur le site de l'émission franceculture.fr, à la page de cause à effet sur les sites de nos partenaires. Toujours avec nous, Paul-André Rosenthal, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po, chercheur associé à l'INED et directeur du projet de recherche Silicosis, Catherine Cavalin, sociologue au CNRS dans le laboratoire de l'IRISO à l'Université Paris-Dauphine et également dans le programme Silicosis, et puis Hélène Ludman et Céline Ross de la SCOP des Deux Rives, des spécialistes, des expertises de terrain, vous l'aurez compris. Et tout de suite, la question justement du réemploi et du recyclage.
Exploser, raser et tout évacuer pour reconstruire, pour ce professionnel du bâtiment, c'est du gaspillage.
Si on les démolit, on ne peut rien récupérer, parce qu'effectivement, tout est broyé et la matière ne peut plus servir. Et à partir du moment où on déconstruit proprement les bâtiments, là, on peut commencer à envisager du réemploi de matériaux pour reconstruire à nouveau des bâtiments.
Julien Chopin intervient sur ce chantier de 12 000 mètres carrés en banlieue parisienne. Il est architecte, spécialiste du réemploi. Son objectif, limiter au maximum les déchets liés à la démolition.
Sur un chantier comme celui-ci, vous avez identifié beaucoup de choses à réemployer.
Il y a les poteaux qui tiennent une partie de la façade. Il y a les dalles qu'on voit ici qui sont des dalles de compression qui intègrent du ferraillage mais qu'on pourrait quand même réemployer. Et puis après, il y a les allèges qui sont des éléments préfabriqués qui font la façade du bâtiment.
L'architecte responsable du réemploi a répertorié chaque matériau récupérable.
On peut les démonter tels quels et puis les réassembler comme des Legos.
Une révolution dans le monde du bâtiment, car déconstruire prend plus de temps et représente un surcoût pour le client. Mais il économise sur les frais de mise en décharge et sur l'achat de matériaux neufs de plus en plus coûteux. Pour le démolisseur, c'est du bon sens pratiqué durant des siècles.
Ce que faisaient nos ancêtres, on prendra l'exemple de la Bastille, vous imaginez qu'aucun élément de la Bastille n'est allé aux déchetteries publiques. Tout a été réemployé par les Parisiens.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Voilà, c'était un reportage diffusé le 19 mars 2015 sur France 2. On l'aura compris, les matériaux choisis en vue d'une empreinte carbone limitée ne sont pas forcément neutres. D'ailleurs, en effet, sur la santé, il faut rester toujours vigilant, quels que soient les univers. Cette question donc du réemploi et du recyclage, Hélène Luneman, c'est une préoccupation essentielle, je crois, au sein de la SCOP des Deux Rives.
Oui, effectivement, on en parle beaucoup dans nos formations, notamment. Et pour nous, ces sujets-là de réemploi, de réutilisation et de recyclage, ça vient toucher au sujet de ce qu'on appelle l'énergie grise, donc de l'énergie qui est nécessaire de mettre pour la fabrication d'un matériau ou d'un équipement, pour avoir cette vision en coût global énergétique des équipements qui sont livrés, de se dire que voilà, on va pas recréer des nouvelles choses, des nouveaux équipements, et utiliser plutôt des choses qui sont déjà sur place ou sur d'autres chantiers, d'autres gisements. Et un des enjeux actuellement qu'on a sur les différents territoires, c'est de créer des filières de réemploi et de réutilisation. Parce qu'effectivement, c'est des pratiques qui sont, même si elles sont historiques, qui restent un peu nouvelles au niveau des chantiers. Et donc d'organiser le jeu des acteurs pour avoir voilà des points de collecte, des référencements de tout ce qu'on peut trouver en termes de matériaux et d'équipements.
Il y a aussi des matériaux nocifs, donc ceux-là, il faut pouvoir les traiter quand on le pensait, soit sur des peintures nocives, soit sur du plomb, de l'amiante, etc. Donc ces questions-là, elles sont aussi cruciales.
Elles sont cruciales, et quand on parle d'éco-matériaux, justement, de la paille, de la terre, du bois, c'est aussi une des propriétés qu'on met en avant. C'est qu'au niveau du retraitement, c'est des matériaux qui sont biosourcés, donc qui ne posent pas ces problèmes-là de complexité, de recyclage, de dangerosité, etc. Donc c'est aussi ce qu'apporte ce type de matériaux qu'on met en œuvre.
Céline Ross, est-ce que vous êtes retrouvée dans la situation de voir ou imaginer ou aider à concevoir des bâtis sur un terrain à dépolluer ?
À Lyon, on a un très bel exemple avec le quartier La Confluence. De toute façon, les zones à bâtir actuellement dans les grands centres urbains, c'est souvent des zones délaissées, donc très polluées. Donc cette problématique est très prégnante. Donc il y a tout un travail en amont à faire sur l'aspect qualitatif des sols et des matériaux mis en œuvre et des industries qui y ont exercé. Après, au niveau du réemploi, c'est vrai qu'il y a tous les éléments de réemploi sont fichés. Il y a des fiches techniques aussi par réemploi avec des préconisations de mise en œuvre, des préconisations sanitaires. Donc ça, c'est un travail très fin une expertise qui est en train de se faire, notamment avec des structures comme Bellastock, qui est assez connue au niveau national, ou des acteurs locaux comme Minica, par exemple, en région lyonnaise. Et c'est une expertise qui est en train de se co-construire. Donc nous, on travaille aussi cette co-construction. Il y a cette acculturation, notamment aussi des maîtres d'ouvrage, donc des donneurs d'ordre qui gèrent ces grands chantiers. Et il y a aussi un travail qui est fait en ce moment sur les questions d'assurabilité de ces matériaux et de ces pratiques. Après, nous, le réemploi, ça nous permet aussi d'aborder d'autres objectifs un peu de construction, de co-construction vertueuse. C'est le faire ensemble. Parce que c'est vrai que quand on parle réemploi, on parle de chantier de réemploi. Donc on va parler aussi de faire avec les habitants, faire les chantiers différemment, donc revaloriser aussi certains métiers du BTP, notamment au niveau des chantiers. Ça veut dire, on va aussi parler d'urbanisme transitoire, parce que sur les grands chantiers, le réemploi, ça nous permet aussi de faire vivre les lieux avant qu'ils ne soient vraiment exploités avec leur vocation finale. Ça permet aussi de libérer la créativité. Et ça permet aussi aux acteurs du projet d'écrire un récit autour de la nouvelle histoire du projet qui s'écrit.
Paul-André Rosatal, on arrive au terme de cette première partie d'émission. On pense forcément aux habitants de Rouen, à la catastrophe de Lubrizol. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux habitants? Que doivent-ils faire peut-être en sachant que là, ils sont face à une pollution potentiellement dangereuse pour la santé? On ne le sait pas encore. Vous, par expérience, en tant qu'historien, vous savez que ça peut prendre des années. Et donc, est-ce qu'il faut qu'ils aient peut-être un réflexe de renseignement eux-mêmes, tenir un carnet sur lequel ils vont noter tout ce qu'ils peuvent avoir comme information aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Alors, évidemment, je ne vais pas parler en tant que médecin et nous n'avons pas travaillé dans nos projets sur des catastrophes et surtout pas des catastrophes de cette ampleur. Est-ce que malgré tout, on peut dire quelque chose? Ce que l'on peut dire, c'est effectivement, le plus important, sans doute, c'est effectivement de garder une trace précise de cet épisode. Même s'il a été court, même si il n'a pas produit forcément d'effets visibles, même si, alors je pense certains riverains ne l'oublieront jamais, d'autres, pour d'autres, la mémoire humaine est très variable sur ce genre d'épisode. Mais ce qui est important, c'est effectivement d'en garder une trace. Et en cas de déclenchement, même des années plus tard, d'une pathologie en plus mal connue, mal répertoriée, on a beaucoup travaillé sur des maladies dites asymptomatiques qui peuvent provoquer des symptômes très différents d'une personne à l'autre, de bien l'avoir en mémoire et de la signaler aux professionnels de santé vers lesquels les personnes se tourneront. Et il faut que dans le corps médical aussi, et c'est à ce genre de choses, je crois qu'on œuvre les uns et les autres, dans le corps médical aussi, il y ait une réception de ce genre d'épisode. Et pas dire, ah ben non, c'était quelque chose de temporaire, ou alors c'était il y a longtemps, ça n'a pas d'importance. La santé publique, elle s'est construite dans un monde complètement différent au début du XXe siècle. C'était un monde où ce qui comptait, c'était de contrôler les grandes épidémies, les maladies contagieuses, infectieuses, et notamment celles qui touchaient les enfants. Il y a eu une énorme campagne de sensibilisation de santé publique pendant plusieurs années, plusieurs décennies, même au début du XXe siècle, pour enseigner aux citoyens à faire attention à ce genre de contamination. On est dans un monde différent dans lequel...
Si ce n'est que la notion d'exposome est entrée dans la loi de santé publique en 2015 et que ça change les choses, c'est-à-dire la santé en rapport avec l'environnement, aujourd'hui, elle est actée.
Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, ce qu'on essaye au fond de faire, c'est en parallèle l'avènement de cette notion, donc exposome, qui n'est pas encore totalement connue, je crois, dans le grand public, et qui est dans l'article 1 de cette loi dite de modernisation de la santé. C'est effectivement une reconnaissance d'un concept qui est né il y a relativement peu de temps en médecine, au début des années 2000, mais qui commence déjà à être reconnu.
Maladies environnementales.
Oui, mais dans leur interaction avec également les variables très personnelles, liées à l'immunologie, liées également à la génétique. L'exposome, ça n'est pas seulement l'environnement. C'est un point de rencontre entre justement des facteurs collectifs et des terrains individuels.
D'accord.
Là, on est dans une représentation de la santé publique qui est véritablement nouvelle.
Mais potentiellement, les médecins, justement, généralistes ou ceux qui sont en contact de la population, des citoyens, peut-être qu'avec cette notion d'exposome, ils seront plus sensibles aussi à ce terrain à investiguer parfois, selon les cas.
Espérer, et c'est aussi pour ça que les projets interdisciplinaires peuvent essayer d'incarner concrètement des exemples de ces maladies émergentes aujourd'hui.
Merci à tous les quatre, Paul-André Rosenthal, Catherine Cavalin, Hélène Lundemann et Céline Ross. Les liens vers vos travaux, vos articles, vos sites sont à retrouver sur le site de l'émission, bien sûr. Et puis je précise que le dossier complet BTP proposé par la coalition France Culture, Le Parisien aujourd'hui en France, Combini et Uzbek Erika, eh bien ce dossier est à votre disposition sous le hashtag Sauver le présent et puis sur nos sites respectifs, bien sûr. Nous poursuivons l'émission seconde partie avec l'œil du monde planète. Et nous prenons tout de suite la direction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média, dans l'actualité qui touche à l'environnement. Coup de projecteur, comme d'habitude, sur une information choisie par l'un des journalistes du quotidien. Aujourd'hui, l'œil du monde Planète n'est autre que Rémi Barou. Bonjour.
Bonjour.
Rémi Barou, vous êtes rendu dans le sud de la France, un sud de la France où l'on s'inquiète de la présence d'une bactérie tueuse d'oliviers. Et je précise qu'à la fin du mois d'août, une alerte sérieuse avait été lancée par les autorités françaises via le ministère de l'Agriculture.
Oui, c'est exactement ça. C'est une très mauvaise nouvelle pour les producteurs d'olives, les oléiculteurs, qui ont appris par un communiqué du ministère de l'Agriculture que la bactérie Poca de Xylella fastidiosa, celle-même qui a tué 1,5 million oliviers dans les Pouilles, a été détectée sur un olivier de décoration à Menton. Évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle parce que si on connaît la bactérie Xylella fastidiosa depuis 2015 en France, c'était une autre souche qui était présente et qui s'était attaquée déjà à des plantes en Corse et dans le sud de la France.
Mais alors, Rémi Barou, on parle des oliviers, mais potentiellement, est-ce que le danger de ces bactéries est aussi orienté pour d'autres espèces végétales ?
Au niveau planétaire, 360 espèces de plantes sont menacées par Xylella fastidiosa. Et ne serait-ce que dans le sud méditerranéen de la France et en Corse, on peut compter tous les agrumiers, les citronniers, donc les mandariniers, on peut compter la lavande, on peut compter les chênes-lièges, on peut compter le mimosa, et la vigne aussi, potentiellement victime de cette bactérie, Xylella fastidiosa. Et les oliviers qui, eux, ont payé un lourd tribut en Italie, dans les Pouilles, puisque donc 1,5 million d'arbres ont dû être arrachés, sont évidemment une cible tout à fait particulière, avec des conséquences économiques qui inquiètent énormément les producteurs.
Donc vous dites aussi que la Corse est touchée, et donc ce sud de la France, quelles sont les zones pour l'instant qui sont infectées par la bactérie ?
150 foyers ont été découverts et sont traités, c'est-à-dire qu'il y a quand même une surveillance très importante de tous ces végétaux. Dès qu'un végétal, un olivier ou une plante d'ornement est suspecte, c'est-à-dire qu'il y a des signes extérieurs comme le dessèchement, le jaunissement, les prélèvements sont effectués, sont envoyés à des laboratoires nationaux dont c'est le travail de détecter ou pas la présence de la bactérie et même de déterminer la souche, parce que c'est très important en termes de contamination éventuelle. Et tous ces foyers sont évidemment surveillés avec des prélèvements très réguliers. Néanmoins, ça fait le département du Var et des Alpes-Maritimes, et puis évidemment les deux départements corses qui sont entièrement infectés pour l'instant.
Rémi Barou, l'arrachage, c'est la seule solution ?
Il n'y a pas de traitement. Il faut en effet, c'est ce que prévoit en plus la réglementation européenne, il faut arracher la plante, l'arbre, et puis arracher dans un périmètre de 5 à 10 mètres autour et exercer une surveillance dans ce qu'on appelle la zone tampon qui peut aller jusqu'à 5 km. Il y a des discussions actuellement au niveau européen pour savoir s'il faut modifier ces distances en termes de surveillance et surtout d'arrachage. Évidemment, ce qui inquiète le plus les oléiculteurs que j'ai pu rencontrer dans la région de Menton, puisqu'il y a une AOP de l'huile d'olive et de l'olive de Nice surtout, c'est qu'éventuellement on les pousse à arracher leurs arbres. Et là, ce serait une perte dramatique telle que l'ont vécu une partie des oléiculteurs italiens.
Merci Rémi Barou. Je renvoie nos auditeurs sur votre article, votre enquête à lire sur lemonde.fr et via notre site, bien sûr. À bientôt.
À bientôt.
La vraie liberté, c'était avant 1950. Chacun plantait ce que vous voulez, on le foutait la paix. Depuis, on est dans l'administration, dans les jugements, tout le bordel à Bruxelles. C'est Bruxelles qui commande. Nous, la France, on suit derrière. Alors, dans chaque département, vous avez des cépages recommandés que vous pouvez planter. Donc, il y a une liste nominative. Il y a des cépages autorisés qu'on trouve pas bon, qui ont été classés avec des abattements sur les droits de plantation. Et puis les autres, c'est les cépages tolérés ou interdits. Les gens pouvaient conserver la vie de la vigne, mais ne pas les replanter. Sur 1 200 000 hectares en chiffre rond de vite en France, il y avait 406 000 hectares d'hybrides, dont 62 000 cépages interdits. C'est énorme.
Chaque semaine, dans l'Escale verte, nous partons dans une région, une ville, un village, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde pour y découvrir des territoires, des actions positives ou négatives avec des chercheurs, des alerteurs, des acteurs de la transition en cours. Aujourd'hui, direction les Cévennes, mais pas que, via un film, Vitis Prohibita, le retour des cépages résistants, un film à découvrir au cinéma à partir du 6 novembre et vous entendiez à l'instant un extrait justement du film avec le témoignage de Pierre Gallet, ampélographe, c'est ça Stéphane ? Stéphane Ballet?
Absolument.
Ampélographe, professeur de viticulture.
Oui, des ampélographes, il y en a peu dans le monde, très très peu.
Donc
ils sont capables, en regardant une feuille de vigne, de déterminer l'espèce de la vigne, la variété. Voilà.
Donc vous êtes le réalisateur et l'auteur de ce film sur les cépages interdits. Dites-nous pourquoi déjà cette terre spécifique, les Cévennes, se retrouve au cœur de votre film?
Bon, c'est une histoire familiale, tout simplement. Ma famille est originaire des Cévennes et j'ai toujours connu la bouteille de Clinton au repas, l'envie de mieux connaître.
C'est pour ça qu'à la fin du film, vous rendez hommage à votre père, c'est ça?
Absolument, oui.
Donc l'histoire de ces vignes, formidable, je pense que c'est une histoire méconnue aujourd'hui, des vignes sacrifiées dans les années 50, donc l'Isabelle, l'Othello, le Noah, le Jacquèse, enfin voilà, de tous ces cépages qui ont disparu parce que la législation a décidé que ces cépages-là devaient être arrachés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés de compréhension de ce qui s'est joué là, à ce moment-là?
Oui, après l'arrivée justement des cépages américains au milieu du 19e siècle, et les maladies telles le phylloxéra, l'oïdium, le mildiou, il y a eu une très grosse crise dans la viticulture et il a fallu trouver des remèdes pour y remédier et on s'est retrouvé rapidement avec une surproduction. Voilà, dans les années 30.
C'est-à-dire qu'on est allé chercher des cépages américains et sur ces cépages on a fait des boutures et on s'en est servi. Ce sont des cépages hybrides.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces cépages américains qui ont été donc introduits étaient porteurs de maladies, mais eux-mêmes sont résistants aux maladies. On peut dire qu'ils sont porteurs sains. Voilà. Donc, en particulier pour le phylloxéra, on les a utilisés comme porte-greffe. On s'est rendu compte que le phylloxéra étant un petit puceron qui vit dans les racines, ces racines-là résistaient. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, la majorité des vignobles sont greffés sur des porte-greffes d'origine américaine. Voilà.
Et alors, des hommes de terroir ont décidé de ne pas les arracher. Parce que ce qui s'est passé, c'est que d'abord, ces cépages américains sont venus sauver, finalement, la production en France.
Oui.
Et puis ensuite, on a décidé qu'ils n'étaient plus sur la bonne liste. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette décision de les arracher?
En fait, c'est une décision politique. Il fallait répondre à une crise de surproduction. La profession n'utilisait pas tellement ces cépages-là. Et pour amener une réponse politique, sans trop heurter la profession, justement, on a éliminé 6 cépages, le Clinton, le Noah, l'Othello, l'Herbemont, l'Isabelle et le Jacquet, merci. Mmh. Ça, c'était en 1934. Voilà. Parce que ces cépages étaient majoritairement utilisés par des paysans dont leur activité première n'était pas de faire du vin.
Toutes les petites productions, quoi.
Voilà,
c'est ça.
C'était la production personnelle, les vignes de la maison, de la treille. Et ils avaient la particularité d'être résistants naturellement, donc ils n'avaient pas besoin de tous ces produits phytosanitaires. Les familles faisaient leur propre vin, ne consommaient pas le vin du commerce. Donc on s'est dit, on va toucher ces gens-là plutôt que de toucher les grands professionnels.
Mais alors du coup, vous, pour le film, vous êtes retourné sur le terrain, vous êtes allé à la rencontre de ces hommes de terroir, ces résistants eux-mêmes, puisqu'ils ont décidé de les garder, ces cépages. Vous nous présentez dans le film des caractéristiques incroyables de ces cépages, c'est-à-dire qu'ils restent résistants, et résistants notamment aux agressions et aussi par rapport au réchauffement climatique.
Oui, alors c'est pas des supermans, évidemment, c'est pas des super-héros, ils vont pas résister à toutes les maladies, mais d'une manière générale, oui, ils sont très très résistants. Oui.
Et on peut les utiliser en bio notamment, parce qu'ils ne nécessitent pas forcément d'intrants chimiques.
Non, même pas du tout. On faisait du bio avant même que le terme de bio existe.
Alors, quelles sont les saveurs quand même de ces cépages? Est-ce qu'ils se sont retrouvés sur la mauvaise liste parce qu'ils n'avaient pas bonne réputation?
C'est un peu ça. Il y a à la fois du vrai et à la fois du faux. Bon, le goût, c'est quelque chose de culturel. Et puis c'est aussi une mode. Donc ces cépages qui avaient des goûts un petit peu particuliers quand même, parce qu'ils ont des origines sauvages, des goûts très prononcés de fruits, de fraises des bois, de maras des bois, voilà, des choses très...
Ils avaient du corps, quoi.
Ils avaient du corps, voilà, très très puissant, qui en plus étaient vinifiés par des familles, qui n'avaient donc pas un savoir-faire extraordinaire, qui avaient des outils de production pas forcément très sains, très propres. Alors ça développait des vins qui étaient familiaux, sans prétention, et qui était considéré comme mauvais.
Comme voilà. Rustique, on peut dire.
Comme rustique, voilà, voilà.
Combien d'hectares il reste aujourd'hui?
C'est difficile de savoir, puisque c'est par nature interdit. Ils sont interdits.
Mais il en reste quand même beaucoup.
Mais je peux vous dire que quand vous promenez dans les petits villages cévenols, il y a des treilles partout.
Est-ce qu'il y a des chances aujourd'hui de voir la législation s'assouplir?
Pour ces cépages-là, pour cette petite poignée, mais plutôt pour l'ensemble des cépages hybrides, qui, après cette interdiction des années 30, c'est plutôt dans les années 60, début des années 60, lorsque sont apparus les grands classements, les AOC, enfin voilà, toute cette réorganisation de la profession, qu'ont été bannis la quasi-totalité des cépages hybrides. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte que ces cépages sont une solution. C'est pas la seule, mais en tout cas, ça répond aux problématiques environnementales et de changement climatique et pour réduire l'utilisation des pesticides. Il faut quand même rappeler que la viticulture, c'est en gros, c'est 3% des terres agricoles et 20% des tonnages de chimie utilisés quand même. C'est pas rien. Voilà.
Et alors, est-ce que l'INRA, par exemple, pour ne citer que cet organisme scientifique, s'intéresse à ces cépages, fait des travaux pour comprendre les bienfaits ou ce qu'on peut développer à partir de ces cépages comme vignes résistantes?
Oui, bien sûr, il y a l'INRA, mais il n'y a pas que. Hein. Il y a, je pense à l'association Piwi, par exemple, qui est une association internationale. La recherche en Europe a été un peu freinée parce que quand c'est devenu interdit, il n'y avait plus d'enjeux financiers à la clé. Donc, évidemment, les recherches ont nettement diminué. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est vers cette voie-là qu'il faut peut-être chercher. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui sont menés depuis peut-être une dizaine ou plus d'années. Il y a une grande dynamique qui est en train de revenir, avec à la clé, on l'espère, une législation qui évolue.
Donc des travaux menés sur des cépages interdits où on n'est pas censé mener des travaux, c'est ça? Ou on le fait en douce? Comment on fait finalement?
Parce qu'il y a une liste très précise de cépages qui sont interdits. Ils sont 6. Et par extension, il y en a d'autres. Voilà. Mais ça n'empêche pas, même s'ils sont interdits à la commercialisation, ça n'empêche pas de les utiliser pour faire de la recherche, par exemple. Pour les utiliser pour faire de nouvelles variétés, en hybridant avec des nouvelles variétés. Pas que des espèces américaines, d'ailleurs, on peut utiliser des espèces d'Océanie, d'Asie, qui ont d'autres vertus de résistance, justement pour le climat et les changements climatiques. Donc on peut travailler avec, il n'y a pas une interdiction totale.
Et d'ailleurs dans votre film, vous partez hein, dans d'autres pays, alors en Europe, on vous retrouve aussi aux États-Unis, en Europe, en Autriche, en Roumanie, pour voir un petit peu ces cépages aussi qu'on retrouve dans ces pays-là, et ce qu'ils deviennent, et puis le marché américain, qui finalement pourrait bien être le gagnant de ces interdits, non? Est-ce qu'on peut dire ça?
Pour eux, ils n'ont jamais été touchés par l'interdiction, puisque c'est vraiment quelque chose de très franco-européen. Eux, ils ont toujours poursuivi la recherche et le développement de nouvelles variétés, notamment sur l'est des États-Unis, puisque leurs conditions climatiques sont très compliquées pour les vignes dites européennes. Nos vignes européennes, on les retrouve dans la Napa Valley, en Californie, mais pour les faire pousser dans l'est des États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, autant on a été figés, et on a peut-être une période de 50 années qui ont été figées en France, eux, ils ont poursuivi. J'ai essayé de voir ce qu'avait donné le Clinton aux États-Unis, j'en ai pas vraiment trouvé, parce qu'ils ont trouvé mieux, ils ont trouvé autre chose.
Ils ont fait évoluer.
Ils ont fait évoluer, alors que nous, le Clinton, c'est sentimental, on est attaché, on le défend.
Alors que disent les sommeliers des qualités de certains de ces vins, hein, puisque c'est vrai que vers la fin du film, on voit, donc vous parliez de Piwi France, et on voit un viticulteur qui dit qu'il a 60 hectares en bio, et puis donc voilà, on se rend compte que ces vins-là, parmi ces vins, il y en a de très très grande qualité.
Oui, parce que d'abord il faut faire une distinction entre ceux qui sont vraiment les purs américains, les Vitis Labrusca, les Vitis Riparia, comme le Clinton et ses copains, qui ont vraiment des goûts très très particuliers et très prononcés. Après, quand on les utilise pour faire des nouvelles variétés par l'hybridation, ce qu'on va chercher, c'est leur caractère de résistance. Donc on va associer un caractère de résistance avec des cépages qui ont des vertus gustatives. Et l'objectif de ces professionnels qui font de la recherche, c'est quand même de se diriger vers des goûts entre guillemets européens, d'associer et de garder le meilleur des deux. Voilà.
Eh bien, je convie nos auditeurs à aller voir votre film, Stéphane Ballet, Vitis Prohibita, à découvrir au cinéma à partir du 6 novembre. Merci à vous.
Merci.
Et comme toujours, vous pouvez retrouver les informations supplémentaires, bibliographies, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet ou sur notre page Facebook. Dimanche prochain, un rendez-vous à ne pas rater, regard croisé entre Jean-Louis Etienne et Sylvain Tesson. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture. Vous retrouvez Être et Savoir et Louise Touré.